Code Philosophie Première de Pénarie Dominique Philippe, le 18 novembre 1999 à Saint-Gérard.
Nous étions restés à la présence, interrogeant toujours, il ne faut pas l'oublier, c'est l'interrogation qui est l'âme de l'induction. Donc c'est l'interrogation qui nous oblige d'aller toujours plus loin. Parce que la présence, c'est quelque chose de très grand. C'est présence, une personne à une personne. C'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que ça varie énormément les présences. C'est une relation personnelle, complexe. Puisque c'est une relation, il y a le fondement de la présence. Qu'est-ce qui fait le fondement d'une présence? Quand on est présent à quelqu'un, présent à un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, la présence de tous les jours, au point de vue monastique, on ne se dit pas bonjour tous les jours, on n'a pas besoin. N'allez pas vous précipiter sur votre frère tous les jours. Bonjour, bonjour. En allant à la chapelle le matin. Non. C'est une chose assez particulière. On ne se dit pas bonjour. Pas du tout parce qu'on ne s'aime pas, mais parce qu'on vit ensemble. Alors il y a une espèce de présence beaucoup plus forte. On dit bonjour à quelqu'un qui a été écarté, éloigné, qui vivait loin. On dit que dans une vie monastique, dans une vie religieuse, on se côtoie le matin, c'est sûr. On se rencontre, mais et on est présent. La qualité d'une présence, c'est parce qu'on a la même vie. Alors on habite, on demeure dans le même lieu. L'église est dans le monastère. C'est ça qui caractérise aussi la vie monastique. On ne quitte pas le monastère pour aller à l'église. Les gens pieux font ça le matin. Ils quittent leur maison pour aller à l'église. Et en rencontrant les gens qui vont à l'église, ils disent bonjour. Parce que ces gens habitent autre part. Tandis que dans le monastère, l'église est dans le monastère. Il est présent. Et je peux le considérer ça au point de vue purement philosophique, hein. Que la philosophie s'intéresse à la vie religieuse. Et religieuse ont cette particularité d'avoir à l'intérieur de leur couvent, de leur monastère, toute leur vie immanente. La vie est immanente. Hein. Et plus la vie est parfaite, plus elle est immanente. Et elle réclame cette immanence. C'est pour ça que ce qui caractérise la vie monastique, la vie religieuse, c'est qu'il y a une immanence plénière, puisque l'adoration, elle est chez nous. Et dans la vie chrétienne, alors, le chrétien s'aperçoit que l'immanence est encore plus grande. Qu'est-ce qui fait la présence de quelqu'un? C'est la qualité propre de ce qui fonde cette présence. Il y a une certaine similitude de vie. Une vie où il y a la même finalité. C'est ce qui fait une famille. Hein. Une famille a la même finalité. Quand il y a deux familles à côté, on ne vit pas la même, sous le même toit. Et cette similitude, elle est faite, comme toujours, notre vie. Elle est faite de notre finalité, mais elle est faite aussi de l'organisation propre de notre finalité. On organise les divers moyens pour atteindre la fin de telle façon. Et on a une organisation commune. On ne met pas tous les jours en cause l'organisation parce qu'il y a une autorité qui a précisé d'avance tous les moyens de la journée. Tous les jours, vous ne vous reposez pas la question, dès que vous levez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vite, un bout de papier, j'organise ma journée. Non, elle est déjà organisée. Et l'organisation d'une journée, sont les diverses opérations qu'on fait, sont les moyens qui nous permettent d'atteindre notre fin. Et ces moyens qui nous permettent d'atteindre notre fin, c'est vraiment nos opérations vitales. Et ces opérations vitales, elles sont déterminées par des déterminations particulières. Vous voyez, je prends l'organisation d'une journée. Et tout ça est en vue d'une présence. C'est sûr. La prière. La prière est un moyen. Elle n'est pas une finalité. Elle est un moyen. Qu'est-ce qui détermine la prière? C'est votre, petit à petit, c'est votre qualité religieuse, l'adoration. L'adoration, vous n'avez pas un contact direct, immédiat, avec Dieu, vous l'avez par l'adoration. Et l'adoration est une opération très qualitative. Elle repose sur la connaissance que vous avez du Créateur de votre âme. C'est ça, la qualité de l'adoration. Quelquefois, on se laisse mener docilement, on suit les autres, on n'a même pas pensé qu'on allait prier. Ça arrive, hein, le somnambule. Il n'y a pas le somnambule de la nuit, il y a quelquefois le somnambule du matin. C'est celui qui se laisse mener, tout simplement, qui ne fait pas un acte d'adoration le matin, tout de suite, adorer Dieu. Seul, au pied de son lit. Ça, c'est le réveil. Et quand on ne fait pas ça vite, on est en retard aujourd'hui à toute vitesse. Et on fait tout machinalement. Et l'adoration est télescopée. Quand vous regardez ce que c'est que l'adoration, il y a une connaissance de ce que vous êtes relativement à celui que nous considérons comme notre Créateur et notre Père. La prise de conscience de notre être créé, de notre âme créée, et par l'âme de notre corps aussi, puisque notre âme assume notre corps. Notre corps, il nous appartient. C'est notre avoir, très proche. C'est notre vie et nous la remettons à Dieu. Je voudrais donc de remettre à Dieu. L'adoration est une opération très qualitative dans notre journée, puisque c'est la connaissance que nous avons de n'être pas seulement notre bien, notre propriété, mais d'être relative à un, relatif à un autre. Ça veut dire que c'est la relation, oui, mais c'est une relation qualitative, c'est pas n'importe quelle relation. C'est une relation qui repose sur l'amour que nous avons de Dieu et ce sens de notre limite, de notre dépendance. Une dépendance très radicale. Et nous remettons à Dieu. À côté de cette relation vis-à-vis de Dieu, il y a la relation de notre frère. Nous prions en commun. Et ça fait partie de ce tissu de relations. Notre relation à Dieu ne supprime pas notre relation à nos frères. Même si nous sommes très dévots, au sens propre, tout entier relatif à Dieu, tout entier donné à Dieu, nous sommes relatifs à ceux qui sont proches de nous, à cause de notre corps. Si notre corps n'existait pas, nous pourrions être angéliques. Et à ce moment-là, on ne s'occuperait pas du voisin. On ne s'occuperait plus du lieu. Tandis qu'on s'occupe du lieu, on adore à tel lieu. Et on n'hésite pas de le faire. On est très docile à quitter sa cellule le matin et puis d'aller... Vous pourriez prier aussi bien chez vous. Non, on prie en commun dans un lieu. Tout ça, c'est des déterminations qui sont autour de nous, qui font partie de la présence. La présence d'un tissu de détermination. Étudiez ce que c'est que la présence de la prière en commun le matin. C'est important. Pourquoi nous ne restons pas en cellule? Un bon père jésuite resterait en cellule. Je me souviens, j'avais reçu un évêque jésuite et j'avais été lui dire le matin. Il m'a dit ah non, mon adoration, je fais dans ma cellule, seul. Je suis habitué. Après, on a discuté, on a dit, ah oui, vous voyez, il y a deux manières d'exercer la vertu de religion. Dans la solitude, et puis de l'autre côté, je peux étudier tout ça fait partie de la présence. Je considère que la présence avec Dieu est plus parfaite si nous sommes ensemble. C'est curieux ça, hein ? Alors que c'est pas direct. Elle est plus parfaite. Pourquoi ça? Je dois étudier ça, puisque je suis au niveau de la présence. Est-ce que la présence est un absolu ou pas? Je vois déjà deux modalités de la présence. Hein, et vis-à-vis d'une présence très importante, la plus fondamentale, présence religieuse. Intéressant. Et je ne dis pas, oh les pères jésuites, c'est à cause de cette époque où l'individualisme a commencé d'une façon si forcenée, et alors ils n'ont pas su dépasser cet individualisme, et ils restent des témoins de cet individualisme de cette époque. On peut dire ça, hein, ça peut se dire, et ça se dit. Tandis que les dominicains sont nés au moment de la commune, alors au moment de la commune, oui, on se retrouve tous sur la place, ensemble le matin, et puis on bavarde. Alors comme c'est l'oraison, on se tait, mais enfin c'est la même chose, on se retrouve sur la place publique, c'est l'agora, mais notre agora religieuse c'est l'église, mais on se retrouve là le matin, Non, c'était parce que c'est la prière. Autrement, on jaserait tout de suite, hein, on jaserait immédiatement, et on parlerait, on serait très heureux, on raconterait ses cauchemars. Tandis que là, au contraire, on essaie de les dépasser. On a dit, vous passez une bonne nuit, une mauvaise nuit, mais c'était très, très bon. Vous voyez la qualité. Pourquoi cette présence commune, pour nous, ajoute quelque chose? Par notre corps. Il faut que notre corps se sanctifie. Et notre corps se sanctifierait moins, oui, il se sanctifierait moins si nous faisions notre adoration seule. Dans nos cellules. Notre corps se sanctifie plus. C'est quelquefois plus pénible, oui, c'est vrai. Ce serait plus agréable de la faire seule. Mais notre corps a besoin de se sanctifier. Et il sanctifie par la présence de son frère. Et si notre frère ronfle à côté de nous, est-ce que ça peut arriver le matin? On prie pour lui, et puis on lui tape sur l'épaule. Réveille-toi. Vous voyez, la charité fraternelle intervient dans l'oraison, dans l'adoration. Et fait que, oui, parce que enfin, c'est pas normal. Il est sorti de son lit, il ne doit pas continuer de dormir. Il n'a pas continué de dormir puisqu'il est venu. Il est venu à l'oraison, donc il faut le réveiller. Il y a des tas de choses comme ça, vous voyez, qui font partie de cette présence commune. C'est notre corps, tout ça repose sur ce fondement plus complexe de l'adoration en communauté. Puisqu'il y a la charité, il y a le lien corporel. Et ce lien corporel fait que si on est à côté d'un ami, ah oui, la providence est bonne, elle met à côté de moi justement celui qui est mon frère bien-aimé, que j'aime tellement. Alors, je regarde Dieu d'abord, c'est sûr, je l'adore, c'est d'abord Dieu, mais, je ne dis pas que je louche, mais presque. Je comprenais, une fois, c'est arrivé, c'est pas une chose inventée de ma part. Je voyais toujours, c'était au Solchoir, chez les Dominicains, donc c'était pas ici. Hein. Mais ça pourrait arriver, c'est... Je voyais toujours, parce que j'ai été permettre des frères convers, alors même dans l'oraison en arrivant, je m'occupe, je les regardais. Ils étaient tous là. Ça faisait partie de ma responsabilité. Et je voyais toujours un frère qui se mettait face, toujours au même endroit, pas l'endroit des autres, un peu séparé. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu te mets là? Parce que juste en face, il y a tel frère que j'aime beaucoup. Et alors, après avoir salué Dieu, je salue mon frère. Je le regarde. Et c'est mieux d'être là, parce que comme ça, dès que j'ouvre les yeux, je le vois. Je me dis, mais alors c'est peut-être une distraction. Oh non, c'est pas une distraction. Il prie tellement bien. Alors, vous voyez, alors, j'en arrive là à la figura. Il prie tellement bien, la manière dont on est. C'est ça la figure, c'est la qualité. Et cette qualité sert de fondement à une présence qui est peut-être une distraction. Dieu seul juge. Je ne veux pas dire que c'était une... J'ai dit, il y a un danger. Tu aimes beaucoup ton frère et tu le vois. Parce que tu aimes beaucoup ton frère et tu le vois, tu risques tous les matins de faire que l'adoration du matin, l'oraison du matin, se transforme très vite dans une présence amicale. Alors il m'a regardé, il dit, ça c'est vrai, oui. Mais pour moi c'est une présence amicale, moi, le matin, quand je suis comme ça. Je suis tellement content qu'il soit là. Et le jour où il n'est pas là, ça peut arriver de temps en temps, il n'est pas là, je ne sais plus comment prier. Et je l'interrogeais, c'est intéressant de voir ça. Ce petit phénomène, vous voyez, du lien de la prière, on est seul avec Dieu, et puis la prière commune. Alors le jésuite a raison, faites ta prière chez toi, dans le silence. Là, le Christ qui te regarde, toi tu le regardes, et tu es obligé de le regarder puisqu'il n'y a que lui qui te regarde. Tandis que quand il y a le voisin qu'on aime beaucoup, qui est juste en face, ah, ça arrive, hein, de le regarder, et son regard est pour moi plus visible que le regard de Dieu. Parce que si je ferme les yeux, je ne comprends plus rien du tout, il n'y a plus aucune détermination, je suis dans le brouillard. Et fermer mes yeux le matin, ça m'endort. Tout de suite. Parce que quelquefois, les gens, dès qu'on ferme les yeux, vous dormez. Mais non, je prie. C'est la présence. Fermer les yeux, c'est une présence bien plus profonde, bien plus divine, qui nous prend complètement. Alors, voyez la présence, hein, sur quoi le fondement ? À les qualités. Et c'est vraiment les qualités. L'action immanente est une qualité, l'action de Dieu, l'acte créateur de Dieu me met en présence de lui. L'acte amical de mon ami, c'est juste en face, il se tait, on respecte le silence, et on se regarde. Dieu a bien fait les choses, le regard est silencieux, donc il ne dérange personne. C'est merveilleux. On peut avoir la physionomie, je dis bien la physionomie de quelqu'un qui prie, qui adore, il est à genoux, il ne s'asseyait pas, il est à genoux. Tous les deux à genoux, et tous les deux se regardant. Alors je ne sais pas, Dieu n'avait plus que le corps, hein, les genoux, il n'avait plus que les genoux par terre. La tête était tout entière polarisée par la présence de l'autre. Alors, l'acte créateur de Dieu, notre réponse, l'adoration, ou de temps en temps, l'amitié. Mais l'amitié font normalement une autre présence. C'est une autre présence, pas la même présence. Mais c'est encore une qualité, charité fraternelle. Et la tenue dans laquelle on se met. Et si on est fatigué, on s'assit. Parce qu'autrement, on est trop présent aux genoux. Quand vous êtes trop fatigué, toute votre présence est de rester à genoux. Et vos genoux vous font mal. Alors, de façon héroïque et stoïcienne, vous aimez mieux rester devant un acte héroïque. Et personne ne le voit, c'est donc beaucoup plus héroïque encore que tout le reste. Dieu seul voit cette héroïcité. Et Dieu seul me voit dans cette héroïcité. Et c'est beau. Mais je ne pense qu'à mes genoux. Et je ne pense plus du tout à Dieu. Et je pense que... Vous voyez, la différence entre ces deux présences qui se conjuguent, qui vont de l'un à l'autre, deux fondements très différents. Et quelquefois même, je suis à genoux, je m'assieds. Pourquoi je m'assieds ? Pour que je pense moins à mon corps, je pense moins à mes genoux, je pense moins à la souffrance que j'ai. J'ai de l'arthrose, c'est très pénible pour moi. À genoux, assis, je trouve un petit coin et ça va. Je n'y pense plus, je peux prier. Parce que c'est pas commode, hein, de mettre la prière dans la souffrance, cette souffrance lancinante, gênante, et qui fait que je suis présent à ma souffrance. Et quand on est présent à sa souffrance, on est seul. Parce que le voisin n'a pas l'air de bouger du tout, pas l'air du tout d'arthrose, rien. C'est merveilleux. La physionomie qu'on a. La physionomie, c'est pas seulement la figure, c'est les yeux qui regardent, c'est sûr. C'est sûr, la présence est d'autant plus forte qu'on regarde. Et souvent, cette présence-là est peut-être très forte. Mais l'autre présence est beaucoup plus grande. Quand je suis présent à Dieu, je peux être présent à mon ami de façon intérieure. Tandis que dans le regard, je ne suis pas présent intérieurement. Je suis présent visiblement. Il y a là quelque chose de très curieux. Vous voyez ? Vous pouvez étudier la présence d'une façon phénoménologique, et très phénoménologique. Et c'est très intéressant d'étudier toutes ces modalités de la présence, les rendre intelligibles. C'est du vécu. C'est du vécu, je vois bien. La preuve, c'est que de temps en temps, vous riez, ça prouve que ça rapporte à ce vécu particulier que vous avez eu. Vous avez vécu de temps en temps toute votre raison dans votre genou. Et votre genou a été l'idole. Mais bon, c'était tout à fait matériel, hein. C'est pas du tout formellement l'idole, pas du tout, parce que vous n'avez eu qu'un seul désir, c'est que ce mal disparaisse. Mais il vous a fixé. Il y a une fixation, ça, très curieuse. Notre corps fixe constamment. Il y a des fixations de notre corps. Et ces fixations de notre corps peuvent nous prendre complètement, on est complètement fini, parce que c'est le sensible et l'intelligible. Et c'est propre à nous. En plus de ça, ce qui est encore une petite manière coquette de se regarder. Parce qu'on est seul. On est seul à voir ça. Et le corps permet la communauté, le corps permet d'être ermite, solitaire. Tout ce qui passe à travers votre corps, c'est solitaire. Non, mon voisin ne le voit pas. Si c'est trop fort, il voit que je rougis, mais ça, c'est rare. Dans mon oraison le matin, et dans le regard de l'autre, bon, je peux faire la phénoménologie de la présence. Alors, est-ce que je suis en présence de l'être? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça? Il y a une certaine unité de cette présence. C'est toujours moi, du reste. Ah, c'est vous. C'est peut-être votre substance, alors. Ah, voilà, mais voilà l'unité. C'est vous. Vous êtes dans votre genou. Vous êtes dans votre mal à tête. Vous êtes dans votre bras qui vous fait mal. Vous êtes dans votre cœur qui se réjouit de voir. Ah, mon ami. Et puis plus profondément, de temps en temps, Dieu, oui, Dieu, je suis là pour lui. C'est sûr, je suis là pour lui. Et c'est moi. C'est toujours moi. Donc, le moi fait l'unité de la présence. Le moi fait l'unité de la présence de l'autre. Et ce moi, il se partage, il est de temps en temps dans mon genou. C'est bien mon genou. Je le dis, c'est mon genou qui a mal. Et c'est très curieux, quand il a mal, il est encore plus mien. Ah, voyez le caprice, ah, c'est extraordinaire ça. Ah, voilà, j'ai trouvé. Pour faire attention à moi, je souffre. Les caprices. Je me retourne sur moi. Mon genou habituellement, quoi. Quand je vous parle, je ne pense pas à genou. Je ne suis pas du tout dans mon genou maintenant. Mais si je vous parlais tant à genou, au bout d'une demi-heure, j'aurais peut-être mal à mon genou. Alors à ce moment-là, je penserais à mon genou. Vous voyez, il est mien. C'est curieux, dès qu'il y a une partie de mon être qui souffre, elle est mienne. D'une façon très, et elle est mienne d'une façon terriblement accaparante. Elle est mienne, et elle m'accapare, elle me prend, elle me saisit. Vous voyez, mon moi, c'est curieux, mon moi, il se loge dans mon genou, il se loge dans mon cœur. Ah oui, oui, ça, je t'aime très, très profondément. C'est mon cœur. Personne ne le voit, tu sais ça. Ça, c'est invisible. Et j'aime mieux fermer les yeux pour que mon moi soit encore plus moi. Si j'ai fermé les volets, personne ne voit. Mon moi est dans mon intelligence. Je me rappelle. Et dans ma mémoire, je me rappelle. Je me souviens de tout ça. Alors au fond, l'être, c'est moi. Dans la présence, c'est très, très intéressant ça, Husserl dit des choses comme ça, le moi c'est ma présence, et c'est le moi qui fait l'unité, et je suis sujet de cette unité, oui voilà, ah, donc il y a le moi conscient, et puis il y a le sujet matériel, ils aboutissent à ça au point de vue phénoménologique, pour essayer de préciser ce que c'est que la personne pour être en présence de quelqu'un. Il y a le moi conscient. Pour être présent, j'ai besoin de la conscience. Tant que je ne suis pas avec ma conscience, ça ne va pas. Et plus je suis présent, plus ma conscience prend tout. Le moi matériel qui fait aussi un lien, c'est curieux, qui fait aussi un lien. Je vois la différence entre mon moi matériel qui est à genoux par terre, ce qui fait froid par terre. Oh, c'est de la pierre. Quand c'est du bois, ça va. Puis quand il y a un petit tapis à la prière, parce qu'il y a un petit tapis à la prière, c'est tellement agréable pour les genoux. Tu vois, ce petit tapis à la prière, c'est pour ça que c'est le tapis à la prière. Et j'aime la prière parce qu'il y a ce tapis, vous voyez. Alors c'est... Et puis il y a la chaise à la prière. Oh oui, alors ça. Je connaissais quelqu'un qui n'avait que des extases que dans son fauteuil. Je vous affirme, il m'a dit ça très sérieusement. Je n'ai des extases que quand je suis dans mon fauteuil. Quand je suis en dehors de mon fauteuil, je n'ai pas d'extase. C'est pour ça que le sujet, il colle au vêtement, il colle à la chaise, il colle à la pierre. Ça, c'est la fusion. Il est tellement collé, sa fusion. Là, on peut faire... Au fond, Husserl arrive quand il réfléchit sur la personne à ça. Et je vois très bien comment je peux y arriver. Et c'est bon d'y arriver. Mais qu'est-ce que c'est que l'être? Ça, c'est glacial, hein? Qu'est-ce que c'est que l'être? Ce n'est plus mon fauteuil. C'est plus le sujet. C'est pas ma conscience. Oh, je croyais que j'étais arrivé. Mais c'est intéressant de voir qu'au fond, d'une passion purement phénoménologique, en réfléchissant sur ma conscience de mon corps, j'ai conscience dans mon corps. Si je pèse très lourd, j'ai conscience sur la lourdeur de mon corps. Je sais que je dois faire attention à la chaise sur laquelle je m'assieds. Surtout quand je suis un étranger. Parce que c'est tellement lourd que ça va l'écraser, sans doute. Jamais quelqu'un d'aussi lourd que moi n'a été sur cette chaise. Alors cette chaise, elle est très galante, mais... Puis ça arrive, hein. Quelqu'un de moi... Vite, se relève. Cette chaise, c'est pas très solide. Faut pas l'écraser. J'ai conscience de mon corps, de la lourdeur de mon corps, de la légèreté de mon corps, de la souplesse de mon corps. Toutes les qualités, hein. Commune que je connais bien, de la netteté de mon regard. Au contraire, mon regard vieillit, je ne vois plus la parole du vieux Jacob. Mon regard commence à s'abaisser. C'est le signe de la vieillesse. Le regard commence à baisser. Le corps qui n'a plus la même souplesse. Tout ça, c'est phénoménologique. Et ce sont des qualités de mon corps, de mon intelligence. C'est ma physionomie, pas la même chose. Il y a certaines personnes qui ne peuvent prier qu'à genoux. Ça m'a déjà été dit, ça. C'était des novices. Ils disaient, quand je suis assis, je ne peux plus prier. Alors, je disais, mais alors quand vous voyez un vieux père assis, vous dites, ah, il ne prie pas, il se repose. Enfin, attention, hein. Je ne suis pas moulé à mon corps. Mes intentions peuvent être au-dessus de mon corps. Je peux très bien avoir la même intention, mais exactement la même intention d'adorer Dieu en étant à genoux, en étant debout, en étant assis. Voyez, je vois tout de suite la très grosse différence entre l'intention intérieure, c'est l'expérience intérieure, et le corps, c'est l'expérience extérieure. Ah ça oui, vous êtes assis sur une chaise. Cette chaise est bonne, pas trop dure. C'est ni du bois, ni de la pierre. Je suis assis sur de la pierre, vous passez trop longtemps, surtout en hiver quand il fait très très froid. Parce qu'alors le froid monte et ça risque de me geler complètement. Je fais la différence, vous voyez, dans ma conscience, très nettement. Alors, est-ce que c'est cela qui va me répondre? Mais c'est très intéressant de rester au moi et rester au sujet. Parce que si je prends maintenant une démarche objective. Une démarche objective. Celle que prenait Aristote. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je prends ce qu'on a appelé les 10 prédicaments. Est-ce que l'être, c'est la relation ? La relation est de l'être, c'est sûr. Surtout la relation amicale. Je vous affirme que celui qui priait le matin en face de son ami, la relation, ça comptait. C'était pas rien du tout. La relation amicale compte. C'est pas du conventionnel. C'est quelque chose qui touche mon cœur et qui me fait du bien. Et là, je peux rester longtemps. Une demi-heure auprès de mon ami, c'est peu. C'est peu. Le temps passe très vite. Tandis qu'autrement, si je m'ennuie, le cours, c'est long. Ça dure une heure. J'y comprends rien. Alors c'est dur. C'est long. La relation. Aristote dit, et on verra ce que c'est que la relation. Mais ici, c'est la description. La relation, c'est un être très particulier, parce qu'il n'existe que si l'autre est là. Alors, dans la relation, j'aime l'autre. Puisque je n'existe, la relation n'existe que grâce à lui. Je ferme les yeux, il était assis à côté de moi. Je ferme les yeux, je continue de prier, je continue de l'aimer. Et puis, en faisant grande attention, il disparaît. Je rouvre les yeux, au bout d'un quart d'heure, il n'est plus là. Je ne me suis même plus aperçu qu'il n'était plus là. Vous voyez, la relation. Il y a quelque chose qui a disparu, la relation réelle à côté de lui. Elle a disparu sans que je m'en aperçoive. Ça, c'est la néantisation de la relation. La relation se néantise sans que je m'en aperçoive. C'est très important, ça, de voir que c'est la relation qui se néantise. Les autres choses, ça ne se néantise pas. Les autres qualités. La physionomie d'un être, ça ne se néantise pas du tout. Je sais très bien quand je suis à genoux, quand je suis assis, quand je suis debout. J'ai conscience de ça. Le jour où j'en ai plus conscience, ça devient dangereux. Et je m'en aperçois et je dis, c'est dangereux. Et bien, il y a l'autre qui dit, mais tu n'es plus à genoux, tu es assis. Et tu ne t'en aperçois pas, mais tout le monde s'en aperçoit. Ils sont tous à genoux, puis tout d'un coup, on se lève. Tiens, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il ne s'en aperçoit pas. Normalement, on s'aperçoit de tout ce qui se passe dans notre corps, de cette manière-là, les qualités. Alors ça ne peut pas se néantiser. Ça peut changer, mais ça ne se néantise pas. Ça peut se refroidir, mais ça ne se néantise pas. Ça peut devenir glacial, mais ça ne se néantise pas. La présence d'un iceberg, ça se sent. On est devant de la glace. On entre dans un frigo pour aller attraper quelque chose, on se dépêche à toute vitesse, mais c'est froid. La chambre froide. Je peux me poser la question, est-ce que la qualité est ce qu'il y a de primordial ? Les qualités, je constate. Ma physionomie est une qualité. C'est la dernière des qualités, puisqu'elle implique beaucoup la quantité, mais c'est quand même une qualité, c'est une manière d'être. Est-ce que c'est ça qui est premier ? Non, je dis bien, c'est une manière d'être. Et la qualité vient s'ajouter ou se retirer, et je suis toujours le même. Je suis avec du moins, avec un manque. Ça exprime très bien ça, avec un manque. Le manque d'une qualité. Au contraire, je suis bien. Bien, moi, parce que je demeure dans ma qualité. La qualité me permet de demeurer en moi agréablement. Mais demeurer en moi, ce n'est pas ce qui est l'être. C'est encore moi qui me dédouble. Je demeure en moi, ou je demeure en l'autre, dans la qualité. L'action, ce n'est pas ce qu'il y a de principal en moi, parce que ça s'ajoute. Aujourd'hui, j'ai été pris toute la journée. J'étais pris tout le temps. Ah, j'ai besoin de m'arrêter. Ah, Pourquoi avez-vous besoin de vous arrêter? Pour me retrouver, moi-même, calmement, paisiblement. L'action, c'est trop agitant. Et pâtir aussi, c'est encore plus. Quand je reçois la douche de quelqu'un qui me corrige, ça ne doit pas durer trop longtemps. Parce que je n'ai pas trop de patience. Mais on sait bien, pâtir, c'est pas moi tout ça. Prenez la liste des 10 prédicaments. C'est une trouvaille extraordinaire, les 10 prédicaments. Tous les prédicaments, donc qualité, quantité, relation, action, passion, figura, situs. Et puis alors, la substance, le sujet qui reçoit tout ça, qui reçoit toutes ces qualités, elle peut les recevoir. Je vois que toutes ces qualités, que tous ces attributs qui m'appartiennent, est-ce que c'est l'être? Mais non, puisque chacune a un petit morceau de l'être, si j'ose dire. Quelque chose de l'être. La relation existe, la qualité existe, la quantité existe, la figura existe, tout ça existe. C'est pas l'être. Et là, c'est une chose objective, hein, c'est plus ma conscience. C'est ce que je vois dans mon ami et ce que je vois en moi. Vous voyez, c'est intéressant, je vois que la phénoménologie me met par, à travers ma conscience, à travers mon vécu, tout ce que le philosophe, lui, découvre objectivement. Les 10 prédicaments, c'est une trouvaille d'Aristote. C'est difficile d'en ajouter un de plus, parce qu'il y a un dernier prédicament, c'est l'avoir. Ben, j'ai quelque chose, c'est pas mon être. Et mon corps est à la fois mon avoir et mon être. Ce qui fait la situation du corps unique. Hein. Parce que j'ai mon corps, vous voyez, avoir, j'ai mon corps, c'est mon corps. Donc c'est mon avoir. C'est ma guenille, si vous voulez, mais elle m'est chère. Bon, parce que c'est quand même mon corps. Et mon corps, c'est pas le corps d'un imbécile, hein. C'est mon corps. Donc il est qualifié, il a quelque chose de bien. Et puis il est unique. J'ai un nez unique. J'ai des yeux uniques. J'ai une bouche unique. Tout. C'est unique, mon corps. Et mon corps, il est tout à fait singulier. Donc s'il disparaît, que s'il disparaît. Donc je peux regarder objectivement tout mon avoir, tout ce que je suis. Je me pose la question, qu'est-ce qui est premier dans l'être? Alors ce qui est premier dans l'être, c'est jamais l'attribut. C'est jamais ce qui est attribué à un sujet. C'est donc le sujet. Ah tiens, je rejoins ce que j'avais dit dans la perspective de la recherche du vécu. Ce que dit Husserl, c'est le sujet, oui. Donc de deux côtés, on a le sujet. Et puis en même temps, les attributs, c'est aussi de l'être. Alors quel est l'attribut principal? Ah, l'attribut principal, c'est ce que vous dites, Pierre, c'est le sujet. Pierre, il est un homme. Tiens, c'est vrai, c'est l'attribut principal. Pierre est homme. Quand je dis Pierre a un nez, ça c'est l'avoir. Mais l'être, il est homme. Je ne dis pas Pierre a l'homme, non. Est-ce que Pierre a l'homme? Non, il est homme. Hein, quelle différence? Être et avoir. Intéressant, ça. Vous voyez, si je cherche qu'est-ce que c'est que l'être, je vois les 10 prédicaments qui s'attribuent à un sujet. Et puis il y en a un particulier qui est ce que la logique appelle l'espèce. Pierre est homme. Et je dis bien Pierre est homme. Et donc si je cherche l'être, c'est bien cet attribut que je regarde en premier lieu et ce sujet que je regarde en premier lieu. Donc, dans une vision objective, par les prédicaments, j'aboutis à deux, le sujet et l'attribut. Pierre, homme, comme j'ai eu le sujet et moi. Bon, après tout, moi, c'est peut-être homme. Parce que dans homme, il y a raisonnable. Et raisonnable, qu'est-ce qui conçoit le mieux? Qu'est-ce qui est le plus raisonnable en moi? Qu'est-ce qui est le plus raisonnable en moi? C'est moi. Ça, c'est bien évident. C'est moi qui est le plus raisonnable en moi. Cherchez quelque chose de plus raisonnable en vous. C'est moi. C'est vous. Alors, c'est curieux. On aboutit par ces deux voies tout à fait différentes. Une aristotélicienne, l'autre, qui est tout à fait moderne. J'aboutis à voir ces deux. Puis-je rester devant ces deux ?